Good afternoon, Montreal. You're listening to Movement Museum on CKUT 90.3 FM. You can find us at movementmuseum.com or on iTunes, on Twitter, on Facebook. We're all over the map. My name's Allison Burns, and I'm here with two co-hosts today. We have J.D. Papillon and Karen Fennell, who's back from all her travels. Welcome back.
Thanks, Allison.
So we have two groups of interviews today, and we're going to start off with Sarah. JD, do you want to get the ball rolling?
Today we're welcoming Sarah Grant, who is a graduate from the UQAM Creation Profile. And she has been running pieces basically since 2010. She first presented a piece as a first part for a first segment for Dave St. Pierre in 2010 at Tangente. And she has created a bunch of other pieces since. A few of them are called Un jour mon père m'a dit, Note à moi-même, One True Path, and Le Roi de la Montagne, which was presented last summer, well, this past summer at Piss in the Pool. Hi, Sarah. Comment ça va?
Bien, merci.
On va faire l'entrevue en français aujourd'hui pour les spectateurs qui nous écoutent. Donc, Sarah, Eve, c'est la pièce que tu vas présenter à Tangente la semaine prochaine, en fait. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu?
Oui, ça s'appelle « Dans le cercle ». Et puis, ça va être présenté la semaine prochaine à Tangente. C'est une nouvelle pour moi. C'est une co-création avec des musiciens. Donc, c'est un peu un genre de... une curve dans mon... chemin artistique, si on peut l'appeler comme ça. Puis c'est vraiment une co-création avec Jean-François Blouin, qui est concepteur sonore, et Florence Blain, qui est hautboiste et comédienne. Présentement, elle fait sa formation au Conservatoire d'art dramatique, donc apprentie comédienne. Et donc, moi et Florence, on performe sur scène, et c'est vraiment exploratoire dans le sens où... les sons sont manipulés en direct et transformés en direct par Jean-François. Et on travaille beaucoup avec des états de corps. Le public est en circulation aussi autour. Donc, c'est vraiment expérimental, si on peut dire. Et on est beaucoup dans la profondeur des questionnements humains. On s'est vraiment lancé dans l'individualisme, des trucs assez profonds pour nous. Puis on va voir comment ça va passer chez le public.
Puis qu'est-ce qui t'avait amené à... Ben, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à décider de collaborer avec des musiciens cette fois-ci, si c'est une nouvelle expérience? Je suppose que t'avais pas vraiment eu l'occasion, même à l'UQAM...
Non, pas du tout. Ça avait été plus des collaborations. Par exemple, moi, je fais la chorégraphie, puis il y a un musicien qui vient plus tard dans le processus, puis qui crée une trame sonore sur ma pièce. Mais là, c'est vraiment... on a commencé tous les trois ensemble. C'est vraiment un trio. Puis c'est vraiment une rencontre humaine, d'abord. Donc, on s'entendait super bien. On avait des idées communes. Donc, on a décidé de mixer nos disciplines. Fait que c'est vraiment une rencontre amicale. Puis après, on s'est rendu compte que nos disciplines pouvaient s'inter-influencer. Puis on a travaillé là-dessus depuis 2011, janvier 2011. Donc, des laboratoires super intensifs de 5 heures avec... on sortait de là un peu planant. Fait qu'on s'est dit, OK, il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais comment on peut présenter ça? T'sais, là, on était bien dans notre bulle, mais... Fait que là, on est là-dedans, mais c'est ça, on a beaucoup hâte de le présenter parce que c'est vraiment le genre de bébite un peu bizarre, mais qui... C'est ça, donc c'est la première fois que je travaille avec des musiciens, puis c'est très, très inspirant et déroutant à la fois, parce que j'ai une oreille un peu déficiente, mais eux, comme eux, ont un visuel un peu déficient aussi, fait que c'est comme vraiment complémentaire, puis c'est ça, mais ça va très bien.
La manipulation de son en direct aussi, je suppose que ça doit être un certain challenge. Il y a la chance de se péter la gueule un petit peu.
Oh oui, vraiment. Il y a vraiment une grosse marge d'erreur possible. T'sais, il y en a toujours dans toutes les pièces. Mais là, on s'est vraiment donné comme on s'enfarge un peu les trois. Puis, comme la dernière répétition, par exemple, Jean-François qui lui manipule le son. Il a fait un arrêt à m'emmener dans une séquence où il n'y en a pas, donc un silence. Puis là, nous, faut Après, on a eu comme une discussion dans le sens où qu'est-ce qui s'est passé? T'étais-tu sur Facebook? Ou... Mais là, il me il a dit, parce qu'il est toujours devant son ordi, fait comme on fait des jokes avec ça, mais il n'est pas sur Facebook. Mais il travaille super fort, mais là, il a comme arrêté la musique, puis il dit non, c'est, tu sais, pour lui, c'est toujours en mouvement, tu sais. Même le son est. Puis nous, ce qu'on fait, c'est toujours un peu différent, moi et Florence. Donc, on essaie vraiment de garder ça ouvert, puis de se dire que. Qu'il y a plein de possibilités, même en spectacle. Là, je pense qu'on n'y arrivera même pas à dimanche à trouver la solution, mais on est plein de questionnements. Fait que ça nous motive pour les quatre représentations.
Comme tu viens de dire, c'est une pièce avec... comme le public circule là-dedans.
Oui.
Donc, est-ce que c'est comme... Est-ce que vous allez pratiquer avec des gens avant de le présenter ou ça va être comme une... expérimente la première fois que j'imagine que ça va changer beaucoup quand vous avez des gens.
Ouais, on a très 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 hâte d'avoir des gens. On n'a jamais répété avec des gens.
Okay.
On a fait des présentations publiques mais avec comme 5-6 personnes, c'est minime. Mais l'espace scénique est assez délimité dans le sens où au niveau de la lumière, parce qu'on travaille aussi avec un concepteur d'éclairage qui délimite beaucoup l'espace par les éclairages pour éviter les dangers, parce qu'il y a des moments où il y a le microphone qui circule très, très rapidement, il ne faudrait pas qu'il y ait d'accident. Mais... Donc, c'est ça, on va travailler avec le public, mais on ne l'a jamais fait. Fait que vraiment, la première, ça va être vraiment une première également pour nous. c'est étrange à dire. Souvent, on veut... essayer avec le public avant. On va faire une générale, mais il va y avoir comme une vingtaine d'étudiants qui sont invités pour qu'on ait un peu une idée. Mais on est vraiment sur l'ouverture au 360, dans le présent. Je sais pas ce que ça va donner, mais on est dans ce minding-là. Fait que je pense que ça va fonctionner, mais ça va dépendre vraiment des soirs,
ouais.
De la réaction du public.
Ouais.
Puis en ça, c'est très, très, très excitant, mais très, très... stressant également, c'est comme faut juste qu'on focus.
Mais c'est très vivant.
Oui, exactement. On l'a gardé comme ça parce que sinon, c'est ça. Pour nous, c'est ça.
L'utilisation de le public en fait en 360 degrés. Qu'est-ce qui a amené ça au juste? Je suppose que c'est très important avec un titre comme Dans le cercle. C'est quoi le but principal en fait? Qu'est-ce qui a amené cette idée-là à germer pour toi?
Dans le cercle, c'était beaucoup, surtout par rapport aux répétitions, quand on entrait dans notre bulle, quand on sortait de cette bulle-là, on trouvait comme tout le rapport au monde, la société qui était super difficile, c'est comme frappant, on sortait comme dans la vraie vie, là. Puis on était comme, wow, ouais, il y a vraiment un clash entre les deux. Fait que on s'est dit, on aimerait créer cette bulle-là, mais on veut pas nécessairement que les gens en fassent partie. Le but, c'est vraiment que les spectateurs soient voyeurs de ça. Il n'y a pas une idée de participation active dans le spectacle, mais juste de par les déplacements, pour nous, c'est suffisant. On n'a pas besoin de les impliquer, de les faire bouger. Tu sais, juste leur mouvement est vraiment suffisant pour nous. Donc, c'est sûr que dans le cercle, c'est vraiment notre bulle individuelle, notre confort, puis là on essaie de montrer un peu comment on réagit avec cette société là qui va être le public et nous qui sommes dans une bulle. Puis c'est ça, la bulle vient aussi d'un texte de Matthew Wisniewski qui nous a pas mal inspiré mais qui est pas du tout dans le spectacle, donc on l'a comme évincé à un moment donné, qui parlait un peu, c'est un texte futuriste qui parle que les gens en gros, les gens commenceraient dans un futur à se tracer des cercles avec des craies, puis s'isoler, puis là, que la ville devient plein de cercles, puis là, ça donne c'est un peu... imaginer un peu la bulle du cercle, puis là, donc les cercles dans la ville, qu'est-ce que ça ferait comme visuellement? Ça change complètement l'état des gens, puis les gens pouvaient s'isoler, puis à un moment donné, ils deviennent prisonniers un peu de ces cercles-là. Fait que ça, c'est un peu une narration. Je veux pas dire trop d'indices.
Mais justement,
voilà.
Justement, vous avez un cercle qui crée dans l'espace avec de l'argile, c'est ça?
Non, lui aussi, il est parti d'avant dans le processus. On trouvait que c'était trop, justement, littéral, tu sais.
Ouais.
On voulait enlever on enlevait aussi le texte. Il y avait aussi du texte qui était dit. Puis on trouvait que c'était trop de plaquer des choses sur les images qu'on voulait pas. On voulait vraiment que ce soit des états de corps, puis après, les gens font ce qu'ils veulent avec ça. T'sais, nous, on est un duo, mais on n'est jamais en relation. Fait que c'est vraiment deux individus, moi et Florence, qu'on voulait vraiment enlever ça. Donc le cercle d'argile a pris le bord. Puis maintenant, c'est des cercles de lumière. Donc Martin Sirois, qui fait la conception d'éclairage, lui, il reproduit en fait le cercle avec des éclairages. Puis c'est beaucoup plus manipulable, puis on peut dire beaucoup plus de choses avec des éclairages, des intensités. On a un contour plein, un contour vide, gros, petit, tu sais, il y a plein de possibilités. Fait que non, il n'y a plus d'argile qui délimite l'espace.
Et au niveau de... En fait, je trouve ça intéressant parce qu'il y a un gros contraste entre cette pièce-là, la façon que tu nous la décris, et la pièce que tu as présentée cet été à Piscine Pau.
Oui.
Alors que pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'était... Une game de dodgeball dans l'espace avec... T'avais combien d'interprètes pour ça?
8 garçons gars.
Donc 8 gars qui se pitchaient le ballon, puis oui. C'était très, très physique, c'était pas vraiment dans l'état de corps.
Non, c'était vraiment un jeu, oui.
Donc là, ça t'est allé dans un autre côté totalement différent. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce changement-là? Est-ce que c'est que t'avais déjà une intention de travailler dans l'état de corps depuis longtemps, puis tu t'es dit, bon, c'est le bon moment de faire ça, ou...
Comme interprète, oui. D'abord, de par mes capacités personnelles qui sont plus dans les états que dans les formes. Puis aussi parce que, c'est pas très différent. Je pense que c'est juste par rapport aux autres pièces que j'ai faites, il y a tout le côté ludique qui n'existe pas dans cette pièce-là, qui existe beaucoup habituellement dans mes autres créations. Puis donc, il a disparu parce que c'est vraiment un chemin qu'on a pris à trois. Fait que c'est sûr que c'est pas un chemin que j'aurais pris toute seule, jamais. Puis c'est ça qui est intéressant parce que c'est une co-création 100%. Tu sais, à chaque fois qu'on a une idée, il faut en parler, ça prend des heures. Tu sais, puis c'est de là que naît toute la richesse du projet parce que c'est un trio. Si j'avais demandé une commande à un concepteur sonore, ça aurait été pas du tout la même chose. Tu sais, là, c'est vraiment chacun... questionne le travail de l'autre, puis c'est ça qui fait que c'est un chemin qui est comme un peu à côté de ce que je fais d'habitude, mais que j'assume comme totalement parce que pour moi, il fait vraiment du sens dans mon chemin, tu sais.
You're listening to an interview with Sarah F. Grant here on Movement Museum. We're going to take a very quick break and be right back with the interview.
On est de retour. Bon, CKUT est en levée de fonds, comme vous avez entendu dans l'annonce. Donc, soyez généreux, aidez la station. Donc, on est de retour avec Sarah F. Grant. On parlait un peu de son processus de création, surtout au niveau de amener la musique et la performance, la danse ensemble. Donc, comment est-ce que ça a évolué au juste? Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu de détails spécifiques au mariage entre les deux?
Oui. En fait, c'est... Je vous ai beaucoup parlé de comment c'était spirituellement, là, dans l'agencement danse-musique, comment on s'est rencontrés, tout ça. Mais comme techniquement, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on voulait... En fait, on travaille beaucoup dans le minimaliste, comme là, les éclairages, on a trois spots, je pense. On est deux interprètes. T'sais, on essaie d'épurer un peu toutes les disciplines pour pas que, non, justement, il y ait tellement de couches à toutes les disciplines puis que là, il y ait trop d'informations pour le public. C'est déjà trois disciplines, parce qu'il y a la musique, la danse et le visuel. Déjà, c'est beaucoup d'informations. Fait qu'on est vraiment allé dans le minime de chaque discipline. Et ce qui, pour nous, traduisait ça, c'était vraiment un rapport à un objet qui est le microphone. On a tous les sons, en fait, la pièce, sont traités à travers ce microphone-là. Donc, il y en a juste un. Et puis, il est branché par un fil super visible, là, donc pas de micro-casse, pas rien caché en dessous du plancher. C'est vraiment ce micro-là qui déclenche. En fait, souvent, moi, je le manipule. Donc, par une pression de son, c'est assez complexe. Si Jean-François était là, peut-être qu'il me... je vais essayer de vous l'expliquer. Il y a toutes des trames sonores qui sont toutes composées. Et par la pression du son ou par les vibrations faites par le corps. Par exemple, si le micro est au sol, puis il y a un piétinement, donc ça fait vibrer le micro. Et par les vibrations, ça déclenche les trames sonores. Ce qui fait que les trames sonores sont complètement liées avec le corps. Il y a, ou des fois, on a des trames de fond parce que c'est, faut contrôler un peu le truc, mais... Donc, la magie, c'est vraiment que tout est contrôlé par le corps. Par exemple, il y a une série de sauts que je fais où j'ai le micro dans les mains, ça crée beaucoup de pression d'air juste au moment où je shoote. Et puis, les sons changent à chaque fois que je shoote. Donc, puis Jean-François, lui, manipule tout ça en direct. Il y a plusieurs modèles de sons, mais c'est vraiment selon moi, mon énergie, lui, ce qu'il capte de ça. Puis, donc, c'est ça. Fait que c'est, l'état est vraiment lié au son de cette manière-là. Et non, je danse sur la musique et on voulait aller juste chercher autre chose. T'sais, c'est vraiment, on était tous rendus là à voir comment on peut vraiment souder les disciplines de cette manière-là, plutôt que juste les coller une par-dessus l'autre. Parce que moi, j'ai toujours eu de la misère avec le multidisciplinaire, mais c'est drôle que je dise ça parce que
c'est une œuvre très multidisciplinaire.
Oui, ça, vraiment. T'sais, mais je trouve que la façon, c'est sûr que c'est mon projet, mais la façon dont on le travaille, c'est une façon qui met en valeur toutes les disciplines et qui, en fait, ça devient comme une. Puis c'était super important pour nous, pour un public de danse, d'offrir que le son soit visible, tu sais. Et pas juste... parce que c'est dur pour un public de danse d'écouter, tu sais. Parce qu'on sait développer l'oreille, c'est plus visuel. Puis là, ben on a trouvé cette façon-là pour rendre le son visuel. Puis il y a des moments où c'est juste la musique, mais on a pris le pari de faire « OK, go, il y a rien qui se passe, mais il y a de la musique. » Puis c'est ça qui est en mouvement. Je sais pas si les gens vont embarquer dans ce sens-là, mais c'est ça. Donc, voilà.
Tu mentionnais que habituellement tu as un petit peu de difficulté avec les œuvres multidisciplinaires. Pourquoi, au juste parce que c'est trop bébelle, des fois, la façon que c'est utilisé, ou...
Ben, je trouve que ça... Comme je trouve que ça fait trop de couches de compréhension, puis ça mêle un peu les pistes, ça brouille les pistes, plutôt que dans... Parce que dans une œuvre multidisciplinaire, il y a tellement de façons de voir, encore plus que... Même si la danse est rendue en soi multidisciplinaire, mais là, c'est vraiment toutes les disciplines. Donc, on se disait, est-ce qu'on va brouiller les pistes si on... On met, OK, la musique, là, on va aller au bout de ce qu'on peut faire en musique, au bout de ce qu'on peut faire en danse, ça fonctionne pas. Il faut comme revenir puis dire qu'est-ce que ces deux disciplines-là font ensemble. Puis moi, on a enlevé beaucoup tout ce qui est technologie, tu sais, parce que la musique électroacoustique, ça peut devenir très, 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 très cérébral et, tu sais, le mouvement du son, tout ça. Puis on est allé dans qu'est-ce que c'est, tu sais, vraiment précisément, physiquement, c'est quoi, qu'est-ce que ça décrit, c'est quelle émotion, fait qu'on... On n'applique pas les choses une par-dessus l'autre, mais ça enlève rien aux œuvres multidisciplinaires, parce que pour là, peut-être que je vais avoir une plus grande ouverture face à ces œuvres-là, ayant fait un processus, mais oui.
Dans ta prochaine pièce, utilisation de vidéo, projection et
ouais,
tout.
On ne sait pas. 360, 3D, non, je ne sais pas. Peut-être, on ne sait pas. Faut jamais, tu sais, moi, faut jamais dire jamais. Je pense que on rencontre des gens, puis des fois, on fait comme « OK, je suis rendue dans ce projet-là, puis OK, on présente à Tangente la semaine prochaine. » Tu sais, moi, je suis encore là-dedans, puis je trouve que c'est le projet, il est né comme ça. Il est né de un genre de « on embarque, tu sais, dans le train, puis il nous amène là, puis on go, tu sais, on y va, puis on est ben, ben dans ce thrill-là qui est comme super vivant pour nous, tu sais, puis pour moi. »
Et au niveau de cette rencontre-là, en fait, comment est-ce que vous connaissez, toi et tes collaborateurs? Est-ce que vous connaissez déjà depuis un certain temps? Vous êtes rencontrés à travers d'autres projets?
On s'est vraiment rencontrés à travers ce projet-là. Tu sais, c'est des connaissances, des gens que j'admire parce que dans leur discipline, ils sont super talentueux. Puis c'est vraiment au travers des laboratoires qu'on s'est rencontrés. Fait que c'est étrange de dire qu'on parle un peu d'individualisme dans cette pièce-là quand c'est pas du tout né d'un projet individuel. T'sais, c'est super collectif, mais c'est ça. Donc c'est vraiment, on s'est rencontrés en faisant ça. Puis même, je pourrais dire que je les connais pas encore tout à fait comme des amis. T'sais, c'est des gens que je connais depuis peut-être 2 ans, mais Je les connais comme des bonnes connaissances artistiques. T'sais, on se comprend mieux en studio que quand on soupe. Là, on est vraiment terrible les trois. T'sais, on est pas super adaptés socialement. Les trois ensemble, séparément, ça va très bien. Mais c'est ça, on est vraiment dans notre bulle, puis on parle de nos trucs, puis c'est ça. Fait qu'on s'est vraiment rencontrés dans le travail.
Dans ce cas-là, l'individualisme, pourquoi?
Parce que c'était comme... C'est une grande question, ça. C'est comme... C'est un thème qui m'est pas non plus familier du tout et qui m'est pas nécessairement cher, mais qui, on dirait, de par le travail multidisciplinaire, on n'a pas le choix de penser à l'individu parce qu'on a tous des références différentes, on a tous des façons de travailler différentes. Fait que c'est comme le collectif, il devient... un, quand on décide, quand on comprend les individus, t'sais. Quand on comprend chaque artiste, là, on peut décider de faire un collectif avec ça. Parce que c'est pas vrai qu'on pense pareil pantoute. On est vraiment, des fois, on pense pas du tout pareil, mais on... Étrangement, tout notre individualisme de nous, ben, on l'utilise, t'sais. C'est ça. Puis ça fait partie de la création, mais... Puis l'individualisme, parce que c'est pas un thème qui était plus général aux trois, parce que, tu sais, quand on co-crée, c'est jamais, ben moi, je veux parler de tel sujet. Tu sais, il faut trouver quelque chose, un terrain commun. Puis on voulait pas que ça soit uniquement technique, aussi musique-son, on voulait qu'il y ait une base qui soit plus narrative ou pour, comme, construire des bases plus solides dans notre truc, mais sans dire d'histoire, là, vraiment pas, mais... Pour nous, c'est une histoire super claire, mais ce ne sera pas ou ce le sera, ou ce sera une autre histoire pour le public, on ne sait pas.
Et en tant qu'interprète, est-ce que tu trouves que l'individualisme, c'est quelque chose de pesant sur scène ou...
Là, je suis vraiment dans la préparation du spectacle, et oui, quand même, parce qu'on s'entraîne tous différemment. Comme Florence, elle joue la musique, donc elle, son travail, c'est de travailler sur, justement, son instrument. Jean-François travaille ses sons, moi, je travaille mon corps. Quand les trois, on s'entraîne pas dans le même sens, mais pour la même chose. Fait que ça devient un peu angoissant dans le sens où ma performance, c'est la mienne. Elle est soutenue par les autres, là, mais c'est vraiment la mienne, puis... Ben, c'est super personnel, mais comme interprète, c'est vraiment un grand défi. Puis, mais qui est super inspirant, mais qui... C'est ça. Donc là, je suis un peu dans le travail personnel de « je me prépare pour ce spectacle ». Mais quand je me retrouve avec eux en répétition, ça se passe super bien. T'sais, l'équipe est tellement solide que on dirait qu'il n'y a plus d'importance aux détails. Mais moi seule, dans ma préparation, c'est une autre histoire.
Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de quand est-ce qu'on va pouvoir voir ta pièce dans le cercle? Ça va être présenté à Tangente?
Oui, c'est du 8 au 11 novembre. Donc, le 11 novembre, qui est un dimanche, c'est à 16h. Sinon, c'est à 19h30. Au studio Hydro-Québec du Monument National. Et puis, c'est aussi présenté... Ah oui, ça, je voulais le dire aussi. C'est présenté... c'est un programme double. Donc, Isabelle Boulanger, qui pouvait pas être là aujourd'hui, mais... qui présente une pièce en première partie de 30 minutes. Donc, nous, c'est 40 minutes. Donc, c'est vraiment un programme double. Et elle présente une pièce avec cet interprète. C'est une pièce super physique, inspirée du handball. Donc, je pourrais pas en parler comme elle pourrait le faire, mais je voulais juste le mentionner parce que c'est vraiment une soirée super différente, mais qui va être... je sais pas, ça va être toute une expérience, je pense, pour le public.
Donc, juste pour rappeler, ça va être la pièce « Fends-toi ».
Oui.
Je me trompe pas, oui. Isabelle Boulanger, qu'elle avait présenté aussi à Danse Buissonnière l'an dernier. Mm-hmm. Et ça semble être assez semblable aussi. Ça semble être dans la lignée directe de la pièce qu'elle avait présentée à Danse Buissonnière, une sorte de continuation.
Oui, exact.
Donc, pour ceux qui ont déjà vu ça et qui seraient intéressés, on rappelle, ça va être à Tangente le 8, 9, 10 et 11 novembre.
You're listening to Movement Museum. We'll be right back. Welcome back to Movement Museum here on CKUT 90.3 FM. We're entering our second interview just right about now. And we're going a little bit out of the contemporary dance territory, which is always exciting for us here. Cirque Antique is presenting a show called Bang Bang. Experience the 1920s underground through circus and burlesque acts from some of Montreal's most talented performers. And we have two such multi-talented performers in studio today. We have David Lauch and the one-word name Esmeralda. She's like Madonna over here. And we want to hear about your show. And I would like to start with about you guys, because you've got these bios up on the website, and it's like you each do everything there is to do with performance, it sounds like. Do you want to maybe start, Esmeralda? Tell us your array of talents.
Well, I do a lot of, I guess I'd like to call, I do a lot of different things. I guess for the show, I'll be mostly doing fire eating. I'll do some fire burlesque, which entails that I'll be lighting my clothes on fire to take them off. And I'll be doing a little bit of pyrotechnics in there.
That sounds exceptionally dangerous.
Yeah, I'm kind of nervous for you.
I'll also be doing an acrobatic number. And I touch base on a bunch of other things. Like, I do dance, belly dancing. I play with lots of fire and stilt walking and hula hooping. And actually, last night I was doing stage managing and making costumes, so...
I also see that you do body painting. What does that entail?
Oh, yeah. I guess usually in sometimes in live performances, I'd like to have somebody body painting on stage. But it's just...
So
it's
somebody just, painting your body?
No, I'm the painter.
Oh.
But I sometimes do paint my own body, so...
Okay.
Either way. Or I have this one burlesque act, which I paint my entire body in, I guess... in a landscape, and I take off my clothes, and underneath it, there's a painting. So,
oh, that sounds really charming. Something else, as if you're not doing enough already, you're also co-producing the show. Is that correct?
Yes, that is correct.
How are you finding that experience? Is that it sounds like a lot?
I really enjoy it, and this is all that I do with like my life. Is I guess all of these artistic endeavors. So, if I've been really focusing on this show. And it's manageable. It's not always easy, but it's manageable.
Wonderful. And maybe just before we get more in depth, let's turn the mic over to David. David, you were explaining to me earlier your list of skills and training.
Yeah. Well, I'm a professional juggler. I also do a fair amount of hand-to-hand performance, which is partner acrobatics, where I'm throwing or balancing someone in the air. But I've been doing that professionally for maybe the last 7 years now. But before I got into circus, I had studied most of my life in theater, and I had done a lot of puppetry and various types of dance for a while, but not really flexible enough to be a dancer, and I never really could gain that, so...
What various types of dancing were you studying?
Mostly jazz. I think I did 4 or 5 years of jazz, but there was a little bit of ballroom in there and some swing, and what else was there? A little bit of tap. Tap was a lot of fun, but it, I don't know. That did not pan out at all.
So right now you're focused on kind of the circus route?
Or? Yes.
Yep.
Yeah.
Wonderful.
Yeah.
And what is your role specifically in the show?
In this show, I'm going to be doing a juggling solo, and it's 1920s themed, so I'm sort of a, I don't know, sort of like a unemployed alcoholic juggler.
That's so basically a juggler?
Yeah, pretty much. I'm pretty much going to do my life, but in the 1920s.
Is there a storyline to the show, or is it just based on characters that?
Well, the storyline, there's a lot of different themes that we're working around. Of course, the prohibition theme, which is, I guess, the banning of alcohol and how that affects people's lives, and also the state of women in that society at that time. We're going to have a few acts around, I guess, the conditions of women in that time, and personally I'll be doing an act about a woman scientist, so because it was actually for the very first time women were accepted as scientists in the 1920s, and
a woman scientist who burns all her clothes off.
Who burns all my clothes off? Yeah. But there's still going to be. It's a cabaret, so there is. I wanted to let all the artists have their own personal take on the 1920s, but we're still keeping in within the theme of alcohol and prohibition and, I guess, rebelling against the government and things like that. Wonderful and things like that.
How many people are involved in the show? Who are we going to see on stage?
Oh, man. There's about maybe 30, 35 performers. Well, the Unsettlers are coming, and the Unsettlers is already a 10-piece band. There are 17 performers who are doing the cabaret. There's a bunch of stilt walkers. There's 3 kittens, and kittens are the ones who take the clothes off after people.
So these are people called kittens?
Yeah.
Okay, there's, just checking.
I just imagine kittens on stage just it's roaming around.
Kittens is a burlesque term. It's for the people who are helping moving things around and who pick up the clothes that had been just taken off on stage and like put them in little baskets, and they do like a little cute curtsy usually, or and
are the Unsettlers scoring the entire production?
Not the entire production. They're going to do a good portion of it. They're doing about half.
Okay.
So half of it is going to be based around their music, and the other half is going to be whatever the artist chooses. And afterwards, the night is going to end with electro swing. And so there are another 5 performers, because they're going to be doing live DJ sets with trumpets and trombonists. And
is this like still part of the show, or is this when things kind of turn into a party?
This is when things turn into a party. And then there's going to be a bunch of performers, you know, playing around afterwards as well.
Very cool. If our listeners haven't heard the Unsettlers before, you need to go look them up, because they're amazing. And they're a Montreal band, yeah?
Yeah.
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 And they're a lot of fun.
So where is this show taking place?
It takes place at the Baie Mathieu. It's right off of Metro Frontenac.
Oh, okay, yes.
It's just on Ontario, right before the underpass.
How's the audience going to be situated compared to you? Are you guys going to be inside of the pool and the audience will be around you, or?
Actually, the audience is going to be inside the pool and outside the pool, and then we're going to turn one of the sides into a stage. Since it's a very versatile and big venue, you can do pretty much whatever you want to it, and you can put stages wherever you want. So we're going to put 2 main stages on one side of the pool, and then the other side is going to be filled up with people.
Great.
I have a question possibly for you, David, because there's this whole community of these kind of circus burlesque performers. Is this something where having being in a production with 30 other people, 30 other artists, are you meeting new people, or is this an insular community where you already know everybody, or what's that experience for you?
I'm definitely meeting a lot of new people there, because most of my work is... I mostly do circus performance, and the burlesque world is... I've done a few burlesque shows in the past, but I don't really... My style of performance isn't as burlesque-y, if that's...
Is the term burlesque accurate? Is that
I don't know.
It's an accurate term, burlesque. Unfortunately, in Montreal, we don't have many burlesque performers. I think there's like one. We have one, and he's also a circus performer. He likes...
There's the glam gam people, too, who do burlesque, quote-unquote, kind of things. I don't know if you guys know them. They're a queer burlesque troupe, and they have quite a few male performers in it, too.
In Montreal?
Yep.
Do they call themselves burlesque performers?
I think burlesque is, like, usually used for men performers really trying to identify themselves within the scene. But I feel that it's pretty much all burlesque. Okay. Like the spirit stays.
I guess I haven't heard of that particular troupe before, and I've been around a lot of them, but like in terms, we don't have very well known burlesque performers in Montreal anyways, as far as I feel like I'd be aware of. But I guess that sounds awesome though. I really want to meet this queer troupe of burlesque performers, and actually in the show there's going to be a lot of queer themes as well, so I'm pretty excited about that.
Fun. I did cut you off, though, David. You were in the middle of your explanation.
I'm coming from the circus world. I'm meeting a lot of new people involved who are more involved in burlesque shows, and most of the other circus performers in the show, I know them and train with them. But it's nice to that world becomes a bit encompassing sometimes, and it's hard to get out of it and meet some other people. And it's a nice chance to, I don't know, meet some other performers that do something that I don't see every day.
Mm-hmm. Yeah. Go ahead.
Oh, I was just going to ask, so are you two collaborating to produce the show, or Esmeralda, you are with somebody else?
I'm the producer. I'm producing the show with two other people.
Okay.
One of them is Simon Spack. He works at the Bay Metzier.
Okay.
So he's in charge of the venue. And the other producer is Mitchell Bundy. He's a pretty awesome and organized person, which is really, really helpful for the other artistic types in the production.
I'm just curious how you went about putting the show together. Like, did you put out a call for artists, or just kind of bring together a bunch of people that you knew from the scene, or...?
Well, I guess it started out with me and the lady Josephine, who's another burlesque performer. She left today, or yesterday, to BC, so she's no longer going to be in Montreal. And we thought it would be nice to integrate both our worlds, because I am often in the circus world and the burlesque world, because I do both, and we wanted to do a circus and burlesque show, and that's how it started. But then it has since evolved, and now it's just a bunch of people who I work with quite mm-hmm. often. Like, I do shows with David every now and again. And I guess a lot of the people in the production are just people who I've either worked with before or see around by doing performances.
Great. It sounds like a great show.
Absolutely. I have one more question before I run out. Just to get back to kind of the community idea, can you talk any about the audiences you get? Is it usually the same group of people that come out? Are you finding you getting mixed audiences? Are you smashing together circus audience and burlesque audience? What are your expectations? I know you've done shows as well before in this style, yeah?
Yeah, we've had one other show before, and a lot of it was just like... to be honest, I really have no idea what our audience is going to be like this time around, because we're bringing in so many different groups of people, like people who like the Unsettlers, which is like their own, right. They have their own little following, and then all of the circus performers, like the circus community itself, and all of our entourage and friends, and then the burlesque world, which is a whole other... So we're kind of mixing in a few different scenes, so... We're just going to be a lovely mix of wonderful people.
Cool. Well, I think I'm going to be one of those members of the audience. It sounds like a great show. Any last words before we say goodbye?
I think...
Maybe the...
Remind the dates and the time.
And
yeah. It's on November 10th, and the show starts at 8. Get there early, or please get your tickets online, or... in stores.
Where online can we get your tickets?
You can get them on the website at www.cirqueantique.com, and Cirque Antique is one word, so it's like CIRQUANTIQUE.
Perfect.
Good.
We'll
got it.
Also put a link on our blog in case nobody had a pen right there. Great. And in store as well? Which store?
We're going to sell them at Kitchen Swell. And
Cruella.
Cruella. And the other one, the name is escaping me right now.
All right. Just go online. Get your ticket online. And the show's at Bain Saint-Mathieu, which looks awesome.
Super. Thanks, guys.
Thank you so much for coming.
Thank you very much.
Thanks. That was our interview with a couple members of Cirque Antique's Bang Bang production. And we're going to go to a quick break here at Movement Museum, and we'll be back in just a second. Welcome back to Movement Museum. here on CKUT 90.3 FM. We've just had two wonderful groups of guests for interviews, and now we're alone in studio again, myself, JD Papillon, and Karen Fennell, and we have some business to take care of. We have some reviews to talk about, specifically this production that JD and I saw at the Mai last week called Colonial by Alvin Estraga Tolentino. How did I do?
That sounded really good. I don't speak Filipino, so I don't know if that was the exact pronunciation, but it sounded very nice.
And he's a Filipino artist, but he was actually raised in Vancouver, which it sounds like informed his work quite a bit. And his work, you know, which you may have guessed from the title Colonial, is about colonialism, and specifically his perspective on the Philippine colonialism from afar.
Yeah, as you said, actually, I think that it's really interesting to see a piece like that from someone who comes from a quote-unquote colonized culture, but that moved away from there and actually had the perspective from the West and how the West actually looks upon his culture. And I feel that this was one of the really strong aspects of the show. There was this insightful quality I felt of this, I wouldn't say judgment, but judgment of the Western gaze on his culture. So I feel that that was one of the most interesting things that came out.
Just to describe the kind of the structure of the show a little bit, it's a solo that he performs, and he's got in the MySpace, he's got two large screens kind of at the back, tilted towards each other, and he does a lot of things with them. He does, you know, shadow work behind them, plays with perspective, and he does you can see through them with the right lighting, and but most of the time they're used as projection surfaces, and there's these really amazing immersive atmospheric projections.
Yeah,
it's really, really quite nice video work, which I had to say was kind of a competition with his, you know, one body on stage moving. It was really hard to stay focused on him as the performer when they had these beautiful, huge projections in the background.
Yeah, especially in a space like the May, which is not that big, you don't have much of a rake, and it really felt sometimes like the projections just engulfed him. And it's true that sometimes you couldn't focus on movement and on his body in space as much as you could have if the projections had been a bit smaller, maybe, or if, again, the audience perspective had been different. But I feel that he intercuts the use of projection with, well, he varies, actually, the use of projection. At some points, there was a sort of interviews, like documentary-style discussions on colonialism. And in a way, that's a really double-edged sword, because it's a bit too much in the audience's face, and it can feel a bit didactic. But at the same time, I feel that all in all, the use of projection was really interesting. It's just that there could be a few modifications here and there so that it doesn't, like, speak down to the audience as much as it did sometimes, and that it doesn't take over the performance, as you mentioned.
Yeah, as you were describing in the beginning, like, the way he told his story was largely the projections, somewhat in the costuming and the dancing. You know, he's swaying hips and stomping ground, and he's got this skirt on that almost looks like bark, and he kind of evolves through it, and there's mixing going back to projections of you know, cathedrals, projections of people, and you kind of you flow through this storyline, this perspective that he's trying to share with you, and it's really helpful to kind of describe that. But then there's this break in almost I guess 3/4 of the way through the piece where he goes off stage, and you have this, like, how it's made kind of mini break, and it really, that upset me, because that was like, I get it. He was very clear, you know, and you've got the program notes, you've got all this information, and then he breaks it down for you even further. And that was really frustrating for me, especially because it wasn't at the end, too. So it completely shatters kind of the mood he's created.
I actually thought it was the end when that came on, because there is something really interesting, I feel, in that behind-the-scenes approach, like sort of exposing how some of the ideas came together and scenes of rehearsal in studio and all of that. But there was a bit of overexposition in
but
a way.
I don't think it's part of the piece, though. I think it's like a talkback thing. If you want to stick around and see this video on how we made the piece, go for it. But I don't think it's part of the work.
You don't think it should have been part? Okay.
Yeah.
Because I feel that for him, maybe it was, I don't know, like the idealistic way that I choose to see it as is documentary filmmaking is a very Western way of sort of appropriating something, of like explaining it, and he sort of turns the camera back on that, of like, and the use of projection, I feel, also like that's why it was essential for him, because it's a very Western method of like, I mean, just the camera, there's something really invading about the use of camera in general, and doing that, like having the camera infiltrate the process, the creative process, is this use of Western weapons, again, quote unquote. And in a way, I felt that it was interesting because of that. And then again, like, was that the intention? Who knows? And it doesn't even matter that much, because it was just my personal perspective on it. But I feel that there was actually something there. I wouldn't dismiss it completely. But I feel that sometimes it felt a bit like a misstep.
That's a really interesting analysis. Yeah.
I'll be here all week.
I kind of feel about the whole show that way. I didn't hate it. There was some really good stuff there, but it could have been done better in my opinion.
One of the things that I always find really tricky, and I talked to you a bit about that after the show, is that when seeing works, especially like Eastern works, there's always a big risk as a critique to fetishize the work, to have this sort of, oh, it's so beautiful, it's so exotic, it's so different from what we're used to. And it kind of left me uncertain at first after seeing it, because I feel that he plays with that. He plays with the image of the beautiful Asian boy quite a lot. And sometimes, I don't know if it's intentional, but it made me a bit uncomfortable at times.
Fair. So that was Colonial by Alvin Estraga Tolentino. It was playing at the May last week.
And very quickly, before I forget, I saw the show Sequence 8 by Les Sept Doigts de la Main this week. It just started this week, but it's going on still for a really long time. It's going on until November 17th. I would suggest, if you're interested, to go see it, to check out the Tohu website, tohu.ca, for the exact dates and times, because it varies quite a bit. I've seen a lot of the shows by Sept Doigts de la Main. They're basically my favorite circus troupe. It wasn't my favorite show of theirs, but it's a very strong show. It's really engaging. The acts are just fantastic. So if you're interested in seeing really good circus right now, and you can't make it to Cirque Antique, or you'd like to see something else on top of it, I strongly suggest going to see that.
All right, that's all for Movement Museum this week. We'll see you next time. Tonight, oh darling, do you want
sharing.